Bonjour à tous. Alors le mois de juillet, c'est le temps des vacances, juillet, août. Et de ces vacances, on espère le repos. Et je ne sais pas si comme moi, arrivé en fin du mois de juin, après une année bien remplie, et en particulier un mois de juin bien rempli, eh bien, il faut juste que j'allume ce truc-là. Vous vous sentez un peu comme ceci. Est-ce que vous avez déjà eu ce sentiment de plus toucher terre? Ce pauvre âne qui a été attelé à une charrette bien trop chargée pour lui. Et au lieu que ce soit lui qui puisse tirer cette charrette, c'est la charrette qui l'a entraîné vers l'arrière. Et cette image m'a parlé quand je l'ai aperçue parce que je me suis dit, c'est exactement comme ça que je me sens des fois. Je décolle, je touche plus terre, accablée. Et je me suis posé la question, mais pourquoi, alors même que je m'efforce de vivre ma vie avec Dieu, sous son regard, de le servir, je me sens si facilement accablée, oppressée, chargée, alors que Jésus lui-même a affirmé que son fardeau était léger. Alors si son fardeau est léger, pourquoi moi j'ai l'impression que des fois c'est si lourd sur mes épaules? Et la réflexion de ce matin part de mon propre questionnement. Pourquoi c'est si lourd alors que tu as promis que c'était léger? Et la première chose qui m'est apparue, c'est ce fardeau ne vient pas de Christ. Il a promis qu'il était léger. Donc ce qui pèse si lourdement sur mes épaules ne peut pas venir de lui. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 11, pour lire ces versets que nous connaissons si bien pourtant. Les versets 28 à 29. Matthieu 11, versets 28 à 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Jésus promet que si nous venons avec à lui, nous trouverons le repos, que son joug est doux et que son fardeau est léger. Alors si je ploie, si je me sens chargée et écrasée, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je réfléchis, je me dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? On peut trouver plein de raisons. Généralement, c'est que la pression qu'on se met, soit qu'on se met soi-même, soit que les autres nous mettent, et tout sauf la pression de Dieu. Les attentes des autres qu'on aimerait satisfaire, nos propres attentes, qu'on aimerait satisfaire. Le manque de recul, une fois qu'on est pris dans le tourbillon, on n'a plus la distance nécessaire, des fois, pour faire les bons choix. Aussi des fausses croyances, des choses qui nous guident, qu'on croit être justes, mais en fait qui sont fausses et donc qui nous guident faussement. Jésus nous promet le repos pour nos âmes. Combien de fois nos âmes aspirent au repos? Le repos pour nos âmes. Et en relisant ce texte, j'ai réalisé que pour recevoir le repos pour nos âmes, le repos de Dieu, il y a trois conditions à remplir. Mais peut-être que parfois, sans nous en rendre compte, nous ne les remplissons plus. Il a dit, venez à moi et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions et vous trouverez le repos pour vos âmes. Et vous pouvez voir dans la petite feuille que c'est le plan qu'on va suivre, c'est la route qu'on va suivre. Ces trois conditions, venez à moi, venir à Christ, prenez mon joug Soumettez-vous à ma direction. Voilà ce que ça veut dire. Et recevez mes instructions. Et que si nous voulons vivre le repos de Christ, il nous faut vivre ces trois conditions-là. Et ce fardeau-là, de ces trois conditions, il est léger. Est-ce qu'on croit aux promesses de Dieu? Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on a confiance que s'il nous dit « Faites ça et vous verrez, vous trouverez le repos, mon fardeau est léger. » Première chose que Jésus nous dit « Venez à moi, venez à Christ tel que vous êtes, venons à Christ tel que nous sommes. » Parfois, et c'est ça le paradoxe, même quand on marche de longue date avec le Seigneur, au sein même justement de ces périodes où on est chargé et fatigué, tout à coup on réalise, c'est quand la dernière fois que j'ai pris le temps de venir à Christ? Et c'est souvent quand on a le moins de temps qu'on est le plus écrasé, qu'effectivement on prend moins de temps aussi avec Dieu. Mais la première condition pour trouver du repos, venir à Christ. Si je ne prends pas le temps de venir à lui, je ne peux pas trouver le repos. Et venir à lui avec mes états d'âme. J'ai déjà entendu cette phrase qui dit « Mais je suis trop mal pour le moment, trop mal pour prier, trop mal pour lire ma Bible, trop mal pour venir à l'église. » Comme s'il fallait d'abord être bien pour ensuite s'approcher de Dieu. Mais c'est quand on a soif qu'on réclame à boire. C'est pas quand on n'a plus soif. Et c'est intéressant de voir que dans l'évangile, à chaque fois que Jésus dit « Venez à moi » ou « Si quelqu'un vient à moi », c'est pour répondre à un besoin. Il y a Matthieu 11, 28 qu'on vient de dire « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et j'y répondrai, vous trouverez le repos. » En Jean 7, il dit « Venez à moi, vous qui avez soif, que celui qui a soif vienne à moi et boive. » Jean 7, 37. En Jean 6, c'est celui qui a faim. C'est moi qui suis le pain de vie, dit Jésus. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Que nous soyons fatigués, chargés, desséchés, affamés, c'est à ce moment-là, encore plus que tout autre, que nous devons venir à lui. Et si nous n'arrivons pas à le prier, nous pouvons crier notre mal-être. Les psaumes sont remplis de cris de détresse que les psalmistes, les auteurs des psaumes ont lancés à Dieu. Au secours, je suis trop mal. Viens à mon secours. Venons à Christ tel que nous sommes, avec nos états d'âme. Disons-lui. Disons-lui ce que nous ressentons, que nous avons besoin de lui. Avec simplicité et humilité, parfois ce qui nous garde un petit peu à distance aussi, c'est « je suis trop insignifiant ». Il ne peut pas s'intéresser à moi. Et pourtant, nous avons le récit en Marc de gens qui amènent à Jésus des petits-enfants, Marc 10, pour qu'ils posent la main sur eux. Et les disciples, mais ils leur font des reproches, ils les empêchent, en disant « Laissez Jésus tranquille, on ne va pas l'embêter avec des enfants. » Et Jésus a vu cela. Et il y a ce beau mot qui dit « Il s'en indigna. » Ça le met en colère. Il leur dit, laissez donc les petits-enfants venir à moi et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Vous vous sentez insignifiant? Le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Venir à Christ en toute simplicité, en toute humilité, c'est justement ce qu'il attend de nous. Venir à Christ conscient de notre péché? Parfois aussi, on se dit, mais tant que je n'ai pas réglé ce problème de péché dans lequel je retombe tout le temps, je sais que ça ne va pas. Je lutte. Donc, je ne suis pas assez bien pour venir à toi. Mais justement, c'est pour ça qu'on doit venir à Christ. C'est parce que par nous-mêmes, de toute façon, on ne peut rien. Jésus était appelé par les pharisiens l'ami des pécheurs, parce qu'il passait du temps avec eux. Et Jésus n'a pas rejeté cette affirmation, parce que je pense qu'il se sentait l'ami des pécheurs, l'ami des prostituées, l'ami des collecteurs d'impôts. En ce moment, je suis en train de lire un livre qui s'appelle « Jésus, l'ami des homosexuels ». L'ami de ceux qui sont rejetés par les autres, parce que leur vie, justement, est trop pleine de péché aux yeux des autres. Et Jésus leur a répondu à ces pharisiens, « Allez, apprenez ce que signifie ce verset que vous connaissez bien dans l'Ancien Testament, où Dieu dit « Je prends plaisir à la bonté et non au sacrifice ». Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Et cela nous concerne tous. Tous, tous. L'apôtre Jean dit en 1 Jean 1, 9 et 10, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, de toute faute. » Alors nous pouvons venir à lui bien conscients de notre péché, quel qu'il soit. Il n'y a pas de péché trop grand, trop lourd, au contraire. Plus nous sommes conscients de notre péché, plus nous sommes attirés à Christ, qui est la seule solution, la seule réponse. Si vous êtes fatigué, si vous êtes chargé, si vous vous sentez desséché, si vous êtes affamé d'amour et d'acceptation, venez à lui dès maintenant. Et laissez son esprit vous remplir de sa bonté, de sa grâce bienfaisante, de sa bienveillance. Le psalmiste, psaume 57, 2, 3, dit « En toi, mon âme cherche un refuge. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. » Mais venir à lui, c'est un premier pas. Et le deuxième qu'on a lu, donc « Venez à moi », et le deuxième, prenez mon joug. Prenez mon joug. Alors, j'ai mis dans vos feuilles, soumettez-vous à ma direction, parce que c'est ça que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est un joug? C'est ce qu'on voit sur le cou de l'âne, là. C'est une pièce de bois qu'on mettait sur le cou de l'âne. Je ne sais pas si vous voyez bien, il paraît que c'est un joug gaulois, celui-là. Il vient, vous voyez, du musée d'Alésia. Et avec lequel on pouvait atteler, ou en tout cas diriger, qui permettait de diriger l'âne. Donc prendre un joug, c'est prendre ce qui permet au maître de diriger. Donc prendre le joug de Christ, c'est simplement se soumettre à sa direction. Accepter de se laisser diriger. Donc Christ, quand il dit « prenez mon joug », il dit « acceptez de vous laisser diriger ». Et vous savez, le peuple, dans l'Ancien Testament, souvent il était traité de peuple à la nuque raide. Pourquoi la nuque raide? Parce que c'est au niveau du cou, justement, qu'on dirigeait. Et qu'il ne se laissait pas diriger. Soumettez-vous à ma direction. Mais pour se soumettre à la direction de quelqu'un, il faut faire confiance à la main qui nous conduit. Vous savez, des fois, un de mes enfants vient et me dit « Maman, ferme les yeux !» Il vous prend par la main et il vous emmène quelque part. Et puis, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, des fois, j'ouvre un peu un œil. J'ouvre un peu un œil parce que je me dis peut-être qu'il n'a pas vu. S'il y a quelque chose, il ne fera pas forcément attention où mes pieds se posent. Et puis, est-ce qu'il a vu qu'il y a cette place, que je ne vais pas me cogner dans l'embrasure de la porte? Et puis, en plus, est-ce qu'il m'emmène pour une bonne surprise ou pour une blague? Pour pouvoir fermer les yeux et ne pas les ouvrir et se laisser conduire, il faut vraiment avoir confiance. Que la personne qui vous conduit, elle fait attention que vous ne risquez pas de vous blesser. Et puis surtout, elle vous conduit vers quelque chose qui est plutôt une bonne surprise qu'une mauvaise blague. Avec Dieu, c'est un peu pareil. Pour se soumettre à Dieu, il faut qu'on ait confiance dans la main qui nous conduit. Et nous pouvons lui faire confiance. La main de Dieu nous conduit vers ce qu'il y a de mieux pour nous. Psaume 23, que tout le monde connaît. L'Éternel est mon berger, il me dirige près des eaux paisibles. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Mais pour que Dieu nous dirige près des eaux paisibles, il nous conduise dans les sentiers de la justice, eh bien, il faut se laisser conduire. La main de Christ nous conduit vers le pardon, la liberté. L'amour inconditionnel. Vous savez, accepter le joug, c'est une expression qui est utilisée chez les juifs, notamment au moment de la bar mitzvah. Alors la bar mitzvah, c'est quand les jeunes garçons atteignent l'âge d'entrer dans la communauté religieuse des hommes. Alors ça ne concerne pas les filles, parce qu'elles sont censées pas avoir accès à cette communauté religieuse. Mais au moment où ils entrent, ils doivent s'engager à accepter le joug de la Torah, c'est-à-dire le joug de la loi. Et ça a vraiment ce sens de se soumettre entièrement à tous les commandements de la loi, sachant que ce n'est pas seulement les commandements de la loi de la Torah, mais aussi du Talmud, enfin tous les commandements qui ont été rajoutés aussi de la tradition. Mais il y a cette expression, se soumettre. Mais on sait bien que le joug de la loi nous conduisait à la culpabilité et à la crainte. Paul l'explique dans ses épîtres. Alors que la main de Christ nous conduit vers le pardon et l'amour inconditionnel, l'acceptation. Donc la main de Dieu nous conduit vers ce qu'il y a de mieux pour nous, et la deuxième chose, c'est que la main de Christ est sûre. Psaume 121,3 dit « Il ne permettra pas que ton pied trébuche. Il voit ce qu'il y a sur notre route. Il veille. Rien ne lui échappe. » Ésaïe 40, 27 à 31. « Pourquoi dis-tu, ma situation échappe à l'Éternel ? Mon droit passe inaperçu de Dieu ? Ne le sais-tu pas ? Ne l'as-tu pas appris ? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne se lasse pas. » Et juste une parenthèse qui, moi, me parle. Il ne se lasse pas de moi. Même si je chute et rechute, il ne se lasse pas de moi. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme de jeunes aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Ça fait envie, hein ? Moi, ça me fait vraiment envie. La main de Christ est sûre. Rien ne lui échappe. Et la main de Christ, troisième chose, est légère. Elle n'est pas pesante. Ce n'est pas un maître dur et oppresseur. Pourquoi ? D'abord, parce qu'il le promet, je suis doux et humble de cœur, et mon joug est doux. Il est doux et humble de cœur. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne cherche pas à s'imposer. Il nous conduit avec douceur et grâce. Il respecte notre liberté. Et il nous propose de le suivre et de nous soumettre à sa direction, non pas parce qu'il a besoin de nous, mais parce que nous avons besoin de lui. C'est notre intérêt. Soumettez-vous à sa direction. Se soumettre à sa direction, c'est donc faire confiance dans la main qui nous conduit, mais c'est aussi chercher la direction du Saint-Esprit, parce que ce joug invisible, cet instrument par lequel Dieu peut nous conduire, c'est la présence de son Esprit en nous. Il a mis en nous son Esprit, et la voix de son Esprit nous conduit. C'est sa parole écrite, la Bible. Cherchons la direction du Saint-Esprit dans sa parole, à l'écoute de sa voix. Trois questions qu'on peut se poser à la recherche de la direction du Saint-Esprit. Chercher la direction du Saint-Esprit, ça peut être examiner ses choix de vie. Est-ce que certains choix sont responsables de ma situation actuelle qui me pèse ? Est-ce que je peux les changer ? Il n'y a pas de situation idéale. Il n'y a pas de choix qui fait qu'on n'aura aucune difficulté, aucune souffrance, aucune contrainte, aucun inconvénient. C'est la réalité de notre vie terrestre quand même, hein ? Mais que le Saint-Esprit nous montre s'il y a peut-être des choix de vie qui expliquent pourquoi on en est là où on en est. Et ça peut nous amener, le deuxième point, à revoir nos priorités. Est-ce que je ne charge pas ma charrette au-delà de ses possibilités ? Parce qu'en fait, c'est ça qu'ils ont fait. Vous vous rappelez cette première image, cette âne ? C'est qu'ils ont chargé. Ils ne se sont pas préoccupés de savoir si l'âne était capable de tirer cette charrette. Et nous, on fait parfois pareil dans notre vie. On charge, mais est-ce qu'on s'est posé la question de « est-ce que j'ai le temps de faire tout ce que j'ai prévu ?» Est-ce que j'ai les ressources ? pour faire atteindre les objectifs que je me suis fixés? Est-ce que mes objectifs sont réalistes? Quelles sont mes priorités? Et on a vraiment besoin de la direction du Saint-Esprit. Plusieurs fois, ces dernières années, c'est trouvé à moi la question de dire, est-ce que je dois reprendre mon travail à plein temps? J'ai cette possibilité. Ça augmenterait nos revenus, ça faciliterait plein de choses. Mais pour avoir, sur des temps de vacances, pour remplacer des collègues, augmenter mon temps de travail sur des périodes courtes, j'ai réalisé que non. Parce que d'autres priorités dans ma vie allaient en souffrir. En premier, ma famille, mes enfants, mais également mon engagement dans l'Église. Je ne peux pas tout faire. Et pour le moment, j'ai fait le choix de garder un temps partiel, parce que je pense que c'est ce que Dieu me demande et que Dieu pourvoit aux besoins. Revoir nos priorités à la lumière du Saint-Esprit. Que dois-je garder? Que dois-je laisser? Quel est mon temps disponible et mes ressources? Et le troisième point découle de ça, parce que se poser ces questions sous le regard du Saint-Esprit, c'est essayer de se mettre au diapason de Dieu. Parce que nos critères ne sont pas toujours ceux de Dieu. Par exemple, le critère de temps. Moi, je suis frappée de voir à quel point Dieu prend son temps parfois. Il ne semble pas pressé pour certaines choses. Et vous savez, l'apôtre Pierre répondait justement à des chrétiens, ou des non-chrétiens même, qui disent aux chrétiens, mais votre Dieu là, il tarde dans l'accomplissement de ses promesses. Il a dit qu'il reviendrait, mais quand? Vous dites que ce sont les derniers jours, mais quand est-ce qu'il va venir? On ne le voit toujours pas. Et qu'est-ce que répond Pierre? Non, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Il use de patience envers tous, voulant que chacun parvienne à la repentance. Et juste avant, il avait bien précisé, mais vous savez, pour Dieu, 1000 ans sont comme un jour, et un jour sont comme 1000 ans. Alors quand Dieu nous dit une seconde, ça peut être très long. Le temps de Dieu n'est pas toujours le nôtre. Si Dieu lui-même prend son temps et n'estime pas devoir intervenir tout de suite, parfois dans des situations, on se dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Et pourtant, Dieu n'intervient pas tout de suite. Pourquoi? Dans sa sagesse, l'Ecclésiaste dit que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Dans sa sagesse, le temps de Dieu n'est pas toujours le nôtre. Si Dieu prend son temps, pourquoi pas nous? Une autre chose, c'est que Dieu supporte et utilise l'imperfection de façon aussi assez stupéfiante. Que Dieu ait choisi que nous soyons la lumière dans ce monde, que nous soyons ses témoins, que même nous soyons son corps, et que à travers nous, ce soit comme cela qu'il veuille manifester sa gloire, ça vous stupéfait pas? On est tellement imparfait, tellement rempli de rancune, d'amertume, de disputes, de luttes de pouvoir, de plein de choses, même au sein des églises, c'est terrible. Et pourtant, Dieu a choisi d'utiliser des outils imparfaits pour manifester sa perfection. Si Dieu supporte et utilise l'imperfection, pourquoi pas nous? Si Dieu m'aime et m'accepte tel que je suis, alors que Dieu prouve son amour envers nous, parce que nous étions encore ses ennemis quand il est mort pour nous, si Dieu nous aime et nous accepte tel que nous sommes, pourquoi pas nous? Mettons notre cœur au diapason de Dieu. On peut poser la question à Dieu. Il y a un an, j'étais très très fatiguée. À la fin de l'été, justement, l'été n'avait pas été si... Et je suis partie quelques jours dans une abbaye et avec cette question, Seigneur, pourquoi je suis si épuisée? Je ne comprends pas. Pourquoi? Physiquement, spirituellement, psychiquement, j'étais épuisée. Burn-out. Et Dieu m'a montré quelque chose. Je suis épuisée de chercher tout le temps être à la hauteur de ce que je crois que les autres attendent de moi. À la hauteur de la femme que je pense que je dois être pour mon mari, de la mère que je crois que je dois être pour mes enfants, de la chrétienne que je crois que je dois être pour mon église. et que ces modèles ou ces attentes que je crois que les autres ont de moi, parce que parfois c'est même pas vrai, c'est moi qui projette mes propres attentes sur les autres, mon propre idéal, sont fausses. Et Dieu m'a montré que je dois chercher à être moi, du mieux que Dieu me le permet, à développer mes qualités, mais aussi à accepter mes limites et mes défaillances. Que je dois grandir non pour devenir la personne que je rêve d'être, mais celle que Dieu a voulu en me créant. Parce que Dieu m'a placée là, parce qu'il m'a équipée. Il a voulu cette mère-là pour ces enfants-là, pas une autre, avec ses limites, ses forces et ses faiblesses. Cette femme-là, pour ce mari-là, pas une autre. La troisième chose, troisième condition, venir à Christ, se soumettre à sa direction. Mais c'est aussi, et ça découle de se soumettre à sa direction, recevez mes instructions, obéissez à mes commandements. Obéir à Christ, ça peut paraître paradoxal pour certaines personnes, mais obéir à Christ, c'est le chemin vers le repos de nos âmes. L'obéissance à Christ, c'est la marque de notre confiance. Et se confier et se reposer, ces deux mots qui vont beaucoup ensemble. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. C'est le texte qu'on a lu dans Isaïe tout à l'heure. Recevez mes instructions. Les instructions de Christ, c'est avant tout une direction à suivre, pas une liste de choses à faire ou à pas faire. Ça, ce serait compliqué. C'est pas j'ai ma liste et c'était justement ce que vivaient les pharisiens. Et Jésus leur a reproché de faire porter sur le dos des gens des fardeaux trop lourds. Pourquoi ? Ils avaient déjà, en plus de tous les commandements de l'Ancien Testament, ils avaient rajouté 613 commandements pour bien circonscrire tous ces commandements. Mais vous voyez la liste que ça peut faire si tous les matins je dois me dire, attends, est-ce que je suis bien dans la... est-ce que j'ai pas fait ça, j'ai bien fait ci, qu'il faut avoir intégré tout ça et faire attention à tout ça, mais c'est très lourd. En plus avec la croyance que dès que j'en fais un pas de côté, je perds la faveur de Dieu. En Christ, la faveur de Dieu nous est acquise. Ça, c'est acquis. Quelle liberté pour avancer. Je peux m'éloigner, chuter, dévier, me tromper. Ma faveur, la faveur de Christ, de Dieu, m'est acquise. C'est fini, ça. On ne revient plus là-dessus. Ça nous donne une grande liberté. Parce que la liberté, c'est pas de... la marche avec Dieu, ce n'est pas de regarder nos pieds pour être sûr de ne pas aller à droite ou à gauche. C'est de regarder la direction et de courir dans cette direction. Vous savez pourquoi il y a des stades pour courir ? Ils ne font pas courir le 100 mètres dans les champs. Parce que là, il y a des pistes, toutes tracées. Et ils peuvent courir vers le but sans se préoccuper de se prendre les pieds dans une motte de terre. Il n'y a rien qui traîne sur la piste. Il n'y a pas un trou, il n'y a pas un creux. Ils peuvent courir et regarder devant sans avoir peur de tomber. Ils peuvent toujours... Il y en a qui tombent hein, parce qu'ils s'emballent trop. Mais c'est généralement une faute technique de leur part. Avec Christ, c'est pareil. On a une direction à suivre. Allons-y. Sans crainte. Et la direction, ben on la connaît. Christ l'a dit dans les évangiles. La direction à suivre. Matthieu 22, 36 à 40. Un pharisien, justement, vient l'interroger. Il lui dit, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ? Et Jésus lui répondit, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Autrement dit, apprends deux commandements et tu accompliras toute la loi. Pas besoin d'en avoir des centaines. Une direction, l'amour. L'amour total pour Dieu, c'est se donner entièrement, c'est se soumettre, c'est faire confiance. Et l'amour pour le prochain. Ça découle de notre obéissance. C'est suivre ses instructions pour aimer, comme Christ a aimé. Une direction à suivre pour obéir avec confiance aux instructions pour ma vie. avec la confiance. Pourquoi avec confiance ? Parce que c'est la confiance que notre Créateur connaît nos aspirations les plus profondes et notre fonctionnement. Il nous montre le chemin de ce qui est juste et bon. Par notre obéissance, nous démontrons notre confiance. Seigneur, je veux rester dans le cadre que tu m'as conseillé, parce que je crois que ce qui est bon, c'est ce qui est bon et juste pour moi. Si je choisis de laisser des choses de côté dans ce que Dieu dit, c'est que je n'ai pas confiance que ça, c'est mieux que ce que moi j'ai choisi. Obéir avec confiance, que Dieu nous montre ce qui est juste et bon pour nos vies. Et la dernière chose, se méfier des enseignements mensongers. Parce que parfois, on croit juste, on est venu à Christ, on s'est soumis à sa direction, on croit suivre ses instructions, mais viennent se glisser au milieu des mensonges. Vous savez, c'est la tactique de l'ennemi aussi. Jésus avait donné cette parabole où il disait « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui sème du blé dans son champ et pendant la nuit, qu'est-ce que vient faire son ennemi ? Il vient semer de l'ivraie. Et quand le blé pousse, l'ivraie pousse avec. Et il est impossible d'arracher l'ivraie sans risquer d'arracher le blé. Dans nos vies, hélas, beaucoup de mensonges viennent se mêler à la vérité. Et un des rôles du Saint-Esprit, c'est de mettre en lumière ces mensonges. Jésus a promis en Jean 8 que la vérité nous rendra libres. Et que si le Christ, le Fils, nous affranchit, nous serons réellement libres. C'est dans le même passage. La vérité nous rendra libres. Alors, méfions-nous des enseignements mensongers, des règles qui alourdissent notre fardeau et qui ne viennent pas de Dieu. Un chrétien, ça doit être ou ça ne doit pas être. Il ne doit pas écouter telle musique, il ne doit pas s'habiller comme ça. Ça doit faire ça, pas faire ça. Et dans tout ça, il y a un tas de règles qui sont simplement culturelles ou de notre éducation ou de mauvaise compréhension des fois de la Bible, mais qui alourdissent notre fardeau. Galates 5.1 dit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Il est parlé d'un autre joug là, celui de la servitude, des règles. Et il s'adressait à des Galates qui étaient tentés de revenir sous la loi et de reprendre un certain nombre de règles. Mais nous aussi, nous avons tendance à rester sur un certain nombre de règles. Examinons à la lumière de Christ si les instructions que nous suivons viennent bien de lui. Et soyons humbles quand nous cherchons à les imposer aux autres. Notre mensonge, c'est une fausse idée de la sanctification. Je ne suis pas assez saint, pas assez parfait. Et ça pèse, ça. On a l'impression qu'on n'en fera jamais assez, qu'on ne sera jamais assez. Et ça demande un effort. Viser la perfection mène inévitablement à l'épuisement. À la fin de ces quelques jours où le Seigneur m'avait montré plusieurs raisons pour lesquelles j'étais épuisée, je suis repartie avec cette carte que j'avais trouvée dans la librairie de l'abbaye. J'ai placé la barre très haut, comme ça je suis sûre de passer en dessous. C'est ce qui est écrit en dessous. Parce que parfois je me sens comme cette grenouille. Regardez, vous avez la barre là. Hein ? Que d'efforts pour essayer de passer une barre qu'on n'arrivera jamais à franchir tant qu'on sera de ce monde. Et cette barre, ce n'est pas Dieu qui l'a placée là. Alors effectivement, Hébreux 10, 14 nous dit « Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Donc on devrait être parfait. Puisque par une seule offrande, Christ, il nous a amené à la perfection pour toujours. Et pourtant Paul, qui a déjà de longues années de ministère derrière lui, dit aux Philippiens, en Philippiens 3.12, « Ce n'est pas que j'ai déjà atteint la perfection. » Il reconnaît qu'il n'a pas atteint la perfection et qu'il est en chemin. Pourquoi ? Mais parce que notre perfection, elle est simplement au travers du sang de Christ. Il y a, vous savez, on dit souvent dans le Nouveau Testament, il y a le déjà et le pas encore. Et souvent, il y a une tension entre ce qu'on a, mais ce qu'on n'a pas encore. Oui, on est saint aux yeux de Dieu, dans le sens où nous pouvons entrer dans sa présence, et que rien de ce qui n'est pas saint peut entrer dans sa présence. Mais nous pouvons le faire parce que nous sommes cachés derrière Christ. Parce que c'est en Christ, en la personne de Christ, que nous sommes saints. Si nous nous présentions sans Christ, devant Dieu, nous ne pourrions pas, nous mourrions parce que nous ne sommes pas nous, nous ne sommes pas saints. Nous ne sommes pas parfaits. Attention, la sanctification, c'est l'action de sanctifier. Ce n'est pas le fait d'être parfait, c'est le fait d'être en route, en chemin, en croissance, en progrès. C'est une expression que Paul utilise à plusieurs reprises, de progrès en progrès. Mais si on va de progrès en progrès, ça veut dire qu'on n'est jamais arrivé, puisque c'est de progrès, puis on peut encore faire un progrès et encore un progrès. Et là, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Attention au temps de Dieu. Dieu prend son temps. Pourquoi certains ont compris des choses plus jeunes que d'autres? C'est le temps de Dieu. Viser la perfection mène inévitablement à l'épuisement. Et puis encore une chose, un dernier point pour les enseignements mensongers ou les mensonges qui viennent aussi se glisser. Ce sont toutes ces accusations qui nous discréditent, soit à nos yeux, soit aux yeux des autres. Si tu étais un bon chrétien, tu ne penserais pas comme ça, tu ne ferais pas ça, ou toi t'aurais fait ça. Si tu étais un bon père, une bonne mère, si tu étais un bon responsable. L'ennemi aime nous discréditer. Moi, j'ai remarqué dans mon expérience avec le Seigneur qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se présente devant moi, peu de temps avant, je me sens complètement disqualifiée. Et je me dis, oh là là, mais je ne suis pas à la hauteur, Seigneur. Pourquoi moi, je peux apporter ça alors que regarde ce que je vis, regarde ma lutte, regarde ma chute, regarde ma difficulté. Peu importe. C'est pas moi que je viens présenter, c'est Christ. Et parce que je dois refuser de me laisser disqualifier, soit par Satan, soit par aussi, il utilise des choses qui sont simplement les injonctions de notre enfance, notre vécu, notre éducation. T'es nul. De toute façon, toi, t'y arriveras jamais. Faire attention. Une fois, tout plus jeune, un de nos enfants, un de nos fils m'a dit, de toute façon, quoi qu'on fasse, on n'arrivera jamais à ce que ce soit suffisamment bien. Ah, là, vous dites, il y a quelque chose que j'ai mal fait passer. Il faut rectifier. Parce qu'effectivement, si j'enseigne à mes enfants que finalement, c'est jamais assez bien, jamais assez parfait, comment est-ce qu'ils pourront vivre le repos de Dieu? Ils lutteront toute leur vie pour en faire suffisamment, en ayant le sentiment que c'est jamais assez. Mais pour Dieu, c'est toujours assez. Va avec la force que tu as, car je serai avec toi. Et vous savez, on parlait de la barre qu'on met parfois très haute. Et la semaine dernière, Pierre-Yves nous a parlé de Gédéon. Il avait peu de force, mais Dieu, il a fait en sorte de baisser encore plus la barre de ses ressources. Parce que la vraie force, c'était Dieu. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Romains 8, 33, 34. Ne laissons pas l'ennemi nous ôter la joie de notre salut et nous priver du repos promis par Christ à tous ceux qui se laissent diriger par lui. Demandons au Saint-Esprit de démasquer les mensonges. Chaque fois que notre paix est troublée, que notre âme se sent écrasée, il y a de fortes chances que ce soit le fruit de ces mensonges. Il nous faut alors aussitôt nous placer sous le regard du Saint-Esprit pour qu'il puisse les mettre en lumière. En conclusion, Jésus nous assure que nous pouvons trouver le repos auquel nos âmes aspirent. en venant à lui tel que nous sommes, avec nos états d'âme, simplement, conscients de notre péché repentant, et nous pourrons alors jouir de son pardon et de sa grâce. En nous soumettant à sa direction, confiant dans la main qui nous conduit et à l'écoute de son esprit et de sa parole, il pourra alors nous conduire dans les pâturages de son amour inconditionnel, de sa bonté et de sa protection. En obéissant avec confiance à ses instructions et en discernant par son esprit les mensonges qui nous écrasent, nous découvrirons alors la vraie liberté que seule la vérité de Christ peut nous offrir. Et je vous donnerai le repos pour vos âmes, nous promet alors Jésus. Amen.